7h29, on vous a parlé hier matin de cette étude sur le gaspillage alimentaire, des chiffres qui font sursauter quand on regarde, là, plus de la moitié de la production est jetée à la poubelle. Évidemment, on a notre part de responsabilité comme consommateur, mais l'industrie aussi est pointée du doigt. J'ai demandé à Danny Saint-Pierre, qui est chef directeur culinaire de la Tribu, de regarder les données, les chiffres, puis de venir parler de ça avec nous. Danny, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous frappe dans les chiffres d'abord?
Le 86 % qui vient de l'industrie, le fait que il y a que 9 % qui est attribuable au gaspillage des consommateurs, à la pomme de salade que tu laisses dans ton frigo, au surachat en tant que tel, qui est une poubelle directe chez vous. C'est ce qui m'a frappé. J'ai commencé à fouiller au travers un peu de voir comment ça se promène une carotte dans l'industrie. Hein, parce qu'on parle d'industrie, c'est quoi l'industrie? Ben, c'est la fabrication. C'est la transformation pour être distribué. C'est la distribution pour se rendre dans les établissements où on transforme les aliments, que ce soit les restaurants ou les endroits où on fait de la coupe de légumes ou les institutions. Puis après ça, ben, jusqu'à la personne qui est desservie. Quand tu commences à analyser ça, c'est clair qu'il y a de la perte. Imagine qu'il y a un chou-fleur qui pousse dans le champ. Le chou-fleur, il est là, il est dans le champ, il va bien, on le cueille. Ben, le chou-fleur a des feuilles, il faut les enlever. Est-ce que ces feuilles-là sont comptabilisées là-dedans? Probablement. Le chou-fleur est mis dans une caisse, puis est transporté de la Californie pour arriver au Canada, admettons à Montréal. Bien, déjà, dans la distribution, il y a un 7 % hypothétique qui est considéré en perte. Ça veut dire que le fournisseur puis le producteur se sont entendus de concert pour se dire qu'il allait au moins avoir 7 % de perte juste là dans le transport. Imaginez quand on fait un tour d'avion de 12 heures, on est pas mal moins frais à la fin. C'est pas mal la même chose pour nos fruits, pour nos légumes. Un légume qui voyage, ben c'est sûr qu'il y a un risque qu'il se fasse maganer un peu. Après ça, une fois que la caisse est arrivée puis distribuée, elle est dans un entrepôt, elle attend d'être vendue à un restaurant, une institution, il y a du temps qui se passe. Le temps et le périssable fait qu'il y a de la perte aussi. Une fois que le légume est catégorisé, est-ce que c'est un légume...
C'est moins vrai, donc, si je suis ta logique, quand c'est un achat local.
Tout à fait. C'est un peu ça la pierre angulaire de la conversation qu'on doit avoir, je pense. Plus le légume voyage, ou le fruit, ou l'aliment en tant que tel voyage, plus il y a des coûts qui y sont rattachés, puis plus il y a de la perte puis du dommage qui peuvent arriver. Les légumes et les fruits sont catégorisés bien avant qu'ils arrivent dans votre assiette en catégorie 1 et en catégorie 2. Quand c'est de la catégorie 1, c'est du premium, c'est ce qui est le plus beau, c'est le chou-fleur qui est parfait, qui te ferait pratiquement un sourire puis la conversation avant que tu l'achètes. Puis le 2, ben c'est celui qui commence à avoir des petites taches sur ses mains, tu sais. C'est celui qui commence à être piqué un petit peu, puis qu'on est un petit peu moins tenté de mettre sur les étalages, donc ça devient le chou-fleur de transformation. Donc, quand on va au marché central ou à la plupart des grands centres, les acheteurs de fruits et de légumes vont déjà profiler. Le prix va commencer à baisser. Ça va commencer à être une perte pour quelqu'un.
En restauration, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes?
Ça dépend de qui gère. Quand admettons un chef propriétaire qui est attentionné, qui fait ses achats, qui magasine, qui gère localement, puis qui est créatif, ben tout ce qui est une perte va devenir une possibilité de transformer quelque chose d'autre. Daniel Villeneuve a un super bon livre là-dessus d'ailleurs sur le fait d'utiliser des rebuts. Il y a une compagnie comme Loop aussi qui fait des jus, de la bière, puis maintenant de la pizza probablement, qui font justement de la retransformation de légumes qui sont moins jolis, puis de fruits qui sont moins jolis. Il y a une façon de le faire pour pas avoir trop de pertes. La perte se retrouve quand tu te mets à commander beaucoup, puis à ce que les aliments deviennent une variable comme des vis puis des bolts. Des vis et des bolts, ça meurt pas. Ça peut rester 2 ans dans ton frigo.
Mais tu sais, le fameux débat sur les dates de péremption.
Oui.
On comprend que si c'est le 19 janvier, le 20, c'est pas devenu un poison mortel.
Mais ben non! C'est drôle, hein, parce que sur Facebook, moi, je voyais des trucs genre celle de 2000 ans, puis après ça, il y avait une date de péremption meilleure avant le 17 juillet. Tu sais, tu fais, OK, les caves, là. Il y a des lois en France qui ont commencé à être passées depuis 2016 où t'as plus le droit de jeter des légumes et des fruits puis des aliments qui sont encore sains. Faut que tu les redonnes. Tu peux plus te retrouver, comme on voit, à prendre tes excédents pour garder ton volume de vente, puis de les mettre au conteneur, puis de mettre de l'eau de Javel là-dessus pour pas que les gens viennent faire du dumpster diving, qui consiste à grimper dans un conteneur puis faire ton épicerie parce qu'il y a encore du beau stock. Il y a aussi des mesures comme ne plus mettre de date de péremption sur du vinaigre, sur des huiles qui peuvent pas rancir, sur du sel, sur des choses qui peuvent pas mourir, parce que c'est juste un algorithme de marché, ça, pour t'assurer qu'il y ait du stock. Fait qu'il y a des petits gestes qui se font. Du yogourt, là, ça vit longtemps. Du yogourt, c'est fait pour durer. Fait que si vous avez du yogourt le 27 décembre, là, puis on est rendu au 29, vous allez être correct, il va être encore bon, votre yogourt.
Est-ce qu'il va perdre un peu de saveur, peut-être?
Peut-être, mais à quel point? Déjà, moi, je prends du yogourt nature, fait que au pire, il va être un peu plus acide, puis je vais avoir du fun. Rendu là, là.
Mais toute cette... moi, je pense à Moisson Montréal. Il y a quand même des organismes qui récupèrent de la nourriture pour la distribuer.
Beaucoup. Moisson Montréal, c'est un très, très, très bon vecteur. Parce que on reçoit des dons. Les dons sont réacheminés. Un organisme comme Moisson aussi, ça donne beaucoup, beaucoup à d'autres petits organismes. Fait que ça, c'est hyper important de faire ça. Je pense qu'il y a aussi des organismes qui profitent de ça, comme les cuisines collectives, où tu prends ces aliments-là, puis après ça, ben ils sont donnés à des gens qui apprennent à cuisiner. Je pense que la clé de pas gaspiller, c'est d'apprendre à cuisiner. C'est tout simple que ça, puis de bien évaluer. La raison pour laquelle il y a autant de choix en épicerie aussi, c'est la demande du consommateur. Imaginez que vous allez acheter des bleuets. Vous êtes dans l'étalage des fruits et des légumes, puis là, vous regardez, sincèrement, vous voulez que des bleuets. Mais s'il y a juste des bleuets puis deux, trois pommes poquées, là, vous allez faire mon épicerie est pas intéressante. Vous allez vouloir des fraises.
Alors, je vais te poser une question.
Il y a un paquet d'autres affaires qui habitent, qui décorent.
Est-ce qu'on a trop de choix?
Évidemment. Moi, je pense qu'il y a trop de choix. Je pense qu'on consomme par impulsivité aussi. Ça va dans les troubles d'outre-mangeurs, de pas être capable de faire un budget comme il faut. On se laisse stimuler par tout ce qu'il y a autour de nous. Puis la seule affaire qu'on consomme en saison au Québec, là, c'est le blé d'Inde, les tomates. Puis là, on commence à avoir des bonnes tomates. L'hiver, c'est correct parce qu'il y a des serres, là. Puis les fraises. Le reste du temps, là, on est là, puis on est laissé à l'opulence et la variété. Je pense qu'il y a des saisons pour chaque chose. Puis il faut en profiter puis accueillir ça comme un beau moment dans l'année. Puis ça peut régler une partie du problème. Puis je pense qu'on devrait s'attarder au fait que consommer des choses qui viennent de très, très loin, ça a non seulement un prix dans votre assiette, mais un prix pour tout l'environnement. L'environnement, puis le fait qu'on jette beaucoup de stock sur le territoire. Puis ce stock-là, on a beau dire qu'il est composté, mais composté, ça coûte très cher. J'ai un ami, moi, qui fait de la transformation alimentaire. Puis le simple fait de prendre les carottes qui pèlent pour les transformer en petites carottes dans la trempette, là, celles qui ressemblent à un doigt de bébé, là, ben ça, il y a un paquet de déchets, puis juste les éliminer, là, ça pourrait représenter jusqu'à 10% de la facture à la fin.
Bon, ben pour la fin de semaine, on va faire attention à ce qu'on achète. On va cuisiner.
Ben oui.
Puis le yogourt, on va le garder une couple de jours de plus.
Bon, faites mariner des pignons de poulet pour faire du tandoori, ça va être fameux.
Danny Saint-Pierre, merci beaucoup d'être
venu. Merci beaucoup.
7h36.